Europe 1,
9h-11h,
François Claus.
Le tour de la question, deuxième heure, et Julie, on va s'intéresser à un métier bien compliqué, qui devient de plus en plus difficile. Ce métier, c'est être parent. Car oui, il s'avère que l'évolution de la société est bien fait de cette charge et quelque chose de parfois très compliqué à assumer. C'est pourquoi ce livre qui va sortir mercredi aux éditions L'Archipel, « Parents, vos droits, vos obligations », co-signé Jean-Pierre Rosenzweig et Pierre Verdier, a attiré évidemment notre attention et je suis heureux d'accueillir dans ce studio l'un des deux co-auteurs. Bonjour Monsieur Rosenzweig.
Bonjour.
Infatigable combattant du droit des enfants, il a été longtemps le président du tribunal pour enfants de Bobigny. On parlera peut-être d'ailleurs en fin d'émission de l'actualité. Il y a eu une mise en examen hier d'un enfant, disons un enfant de 15 ans du côté de Bobigny. Mais pour le moment, la question... Pourquoi avoir senti le besoin de répondre à ce livre ? C'est 250 questions et 250 réponses pour tenter de faire le tour de la question des droits et devoirs des parents.
Parce que la loi, c'est important dans le champ familial. Et que beaucoup de parents, beaucoup d'enfants, beaucoup de professionnels aussi, ne sont pas très très au clair sur ce qui est obligatoire, sur ce qui est possible, sur ce qui est interdit. Et grosso modo, c'est le rôle des juristes d'expliquer la loi. C'est le rôle aussi des juristes d'essayer de coller aux réalités sociales. Bon, les pratiques familiales, les pratiques matrimoniales, la manière d'être parent, d'éduquer ses enfants ont évolué.
Mais est-ce que la société est allée plus vite que le droit à l'heure des 130 000 divorces par an en France ?
Dans ce domaine-là, généralement, la justice est plutôt suiveuse qu'en avance. Et je pense qu'elle ne suit pas suffisamment, notamment par exemple. Beaucoup de familles sont recomposées. Vous avez 1,5 million, 2 millions d'enfants qui vivent avec un parent, entre guillemets, qui n'est pas son père ou sa mère biologique, et qui je considère comme étant en situation de responsabilité. Notre droit est silencieux. On fait du bricolage dans ce domaine-là. Il est important qu'un beau-père ou une belle-mère puisse dire au gamin, écoute, viens manger, lave-toi les dents, lave-toi les mains, viens manger, lave-toi les dents, va faire tes devoirs, va te coucher, etc. Comme il est important de dire au père biologique ou à la mère biologique, c'est toi ou c'est vous qui décidez de la scolarisation de l'enfant, de la sortie de territoire, etc. Qui doit faire quoi dans le champ familial ? C'est important pour les parents, c'est important pour les enfants. Vous parliez de Bobigny, j'étais juge pour enfants. Quand je voyais par exemple des gamins dire à leur beau-père, à belle-mère, quitte-toi, t'es pas mon père, va te faire voir, c'est pas possible. Puis c'est important aussi pour les professionnels. Les professionnels doivent être au clair sur qui fait quoi dans le champ familial et ce qu'ils sont autorisés à faire et à ne pas faire. Voilà, c'est un ouvrage qui se veut de clarification. Alors on l'a fait effectivement sous un jeu de questions-réponses, ça prend pas la tête. Parfois c'est un peu amusant parce qu'il faut s'amuser.
Je dois dire, c'est absolument passionnant parce qu'on ouvre le livre et on tombe sur une question, là je le fais vraiment au hasard devant vous, page 190.
Je peux la tester.
Les surveillants peuvent-ils interdire l'entrée du collège à mon fils du fait de sa tenue vestimentaire ? Que dit le droit là-dessus ? Que dit la société ? Plus loin j'ouvre page...
Et que dit en l'espèce le règlement intérieur de l'établissement qui effectivement peut non pas imposer obligatoirement une tenue, mais interdire certaines tenues. Ce qu'on dit dans cette question, c'est que l'établissement scolaire, c'est pas la plage et c'est pas une boîte de spectacle.
Page 252, là, je fais vraiment au hasard, là j'ouvre, mineur, virgule, puis-je reprocher à un de mes parents d'être alcoolique ?
Ça c'est tout le problème de savoir. C'est une manière humoristique de le dire. Mais est-ce que les enfants peuvent demander des comptes à leurs parents ? Alors moralement, oui. Enfin, moralement, oui. On règle ses comptes, entre guillemets, hein, par la parole, à un certain moment quand on peut dialoguer. Mais sur le plan juridique, bah, c'est tout simplement, bêtement, la question des enfants qui souhaiteraient devenir majeurs, qui souhaiteraient poursuivre leurs études, et qui ne le peuvent pas, ou qui, avec des parents qui pourraient les financer, mais qui ne veulent pas les financer. C'est aussi le problème de la pension alimentaire. Puis, d'une manière générale, c'est les rapports parents-enfants, où des enfants disent « tu ne m'as pas éduqué comme tu aurais dû, et je vais te demander des comptes ». Derrière aussi, c'est avec un brin de sérieux, là pour le coup, c'était l'arrêt Perruche, avec la question des enfants, qui naissaient handicapés. Est-ce qu'un enfant qui naît handicapé est en droit de demander une indemnisation à ses parents ? Vous voyez, c'est à la fois, on peut en rigoler, Puis ça peut mais être c'est, très,
mais,
très
mais, ça, mais effectivement, et ça pose des questions, et c'est effectivement le reflet de l'évolution de notre société. C'est ce qu'on va baliser tout au long de cette heure. Nous sommes accompagnés dans cette réflexion avec M. Stéphane Clergé. Bonjour.
Bonjour.
Pédopsychiatre, chercheur, praticien hospitalier, vous avez mis en place l'une des premières consultations dites d'aide à la parentalité. Ça oui. veut dire qu'être parent, on a besoin d'être aider dans cette charge, Stéphane Clergé.
Oui, très certainement. Hein, aider déjà par les autres parents, mais aussi, pourquoi pas, par des professionnels hein, dans la pratique au quotidien et aussi du fait des difficultés émotionnelles, psychologiques qu'on peut rencontrer aussi en tant que parents. C'est évidemment difficile émotionnellement parfois d'être confronté à des enfants en difficulté. Et puis on a aussi besoin de conseils éducatifs au cas par cas.
L'évolution de notre société aussi rapide a-t-elle été ? Car n'oublions pas que c'est tout simplement, allez, disons, la première génération du divorce, cette génération, par rapport à celle des parents. Le couple juge psychiatre, psychologue, justice est extrêmement important pour défendre et accompagner les enfants.
Pas pour tous les enfants de France et de Navarre.
Non, je parle pour, disons pour assumer ces évolutions.
Il ne faut pas laisser passer l'idée que parce qu'on est parent, il va avoir besoin d'un psychiatre et d'un juge, parce que ça va devenir délicat.
Mais on peut se faire aider.
On peut parfois se faire aider. On peut se faire... D'abord, on le fait à partir de sa propre expérience. On le fait aussi avec son environnement familial, ses amis, etc. Et puis de temps en temps, il faut faire appel à un professionnel, parce qu'effectivement, on est dépassé par les événements, on a besoin de conseils, parfois on a besoin d'une intervention. C'est le rôle, ça peut être le rôle du psychiatre, du psychologue, ça peut aussi être aussi parfois le rôle de tel juriste ou tel magistrat.
Stéphane Clergé.
Oui, nous, on travaille beaucoup, nous, pédopsychiatres, avec effectivement la justice, et surtout la justice pour mineurs, hein, les juges pour enfants, les juges pour affaires familiales. Hein, et c'est un partenariat qui fonctionne plutôt bien, qui est assez complémentaire, parce que c'est vrai que eh bien, quand les parents ne peuvent pas poser les règles, par exemple, eh bien, il est important qu'il y ait au-dessus d'eux un juge qui puisse...
Les poser.
Exactement.
Et éventuellement un psychologue qui puisse les aider. Vous publiez aux éditions Fayard, d'ailleurs, vous venez de publier « Soigner son enfant hyperactif » sans médicaments. Précisez-vous, un petit mot rapide,
oui,
Jean-Pierre Rosenfeld, avant la publicité.
Oui, pour compléter ce que monsieur Clergé, avant que des spécialistes interviennent, j'allais dire, pour gérer tel ou tel problème, encore faut-il que la société fasse loi, c'est-à-dire qu'elle dise quelles sont les règles du jeu.
Absolument, et c'est pour ça que vous êtes
parents,
là.
Beaucoup de parents ou de futurs parents ne savent pas quelles sont les règles du jeu. Alors après, il peut y avoir des dysfonctionnements. C'est autre chose.
Et les règles du jeu, ben, c'est celles qu'on va essayer de rappeler en termes, rappelons-le à chaque fois, de droit, mais aussi de devoir, d'obligation.
A tout de suite avec François Claus.
9h-11h, François Claus sur Europe 1.
Être papa et maman est devenu de plus en plus complexe, particulièrement en raison du nombre de divorces qui a été multiplié par 3 en France. En moins de 50 ans.
En moins de 50 ans,
c'est cette... On parle de ce métier de
parent. Hein. Et oui, c'est cette rapidité-là qui a poussé Jean-Pierre Rosenzweig et Pierre Verdier à écrire « Parents, vos droits et obligations ». 250 questions et réponses. 1 million, Jean-Pierre Rosenzweig, 600 000 enfants aujourd'hui en France vivent dans des familles recomposées. Ça pose la question de, 1, la filiation, 2, l'autorité parentale. Comment et jusqu'où s'exerce-t-elle et par qui ?
Pour compléter le tableau sociologique, quand vous parlez de divorce, il vaudrait mieux parler de séparation.
Oui.
Parce que beaucoup de couples éclatent qui n'ont pas été mariés. Et très concrètement, beaucoup d'enfants naissent. 56% des premiers enfants d'un couple naissent hors le mariage des deux parents entre eux. Ce qui pose, et je reviens à votre question, la question de la filiation. Il faut un acte volontaire. Avant, c'était simple. Le mari de la femme qui accouchait était censé être le père de l'enfant. Pater est est, pour ne pas parler latin comme le faisait Napoléon. Maintenant, c'est plus compliqué. Donc, on peut faire des enfants sans être marié. Il faut donc un acte volontaire de la part de la mère pour reconnaître l'enfant et de la part de l'homme pour reconnaître l'enfant. Donc, il faut créer un lien de filiation juridique. Et maintenant, pour répondre à votre question, de ce lien de filiation découle l'autorité. Alors, le lien de filiation juridique peut correspondre à une réalité biologique. C'est bien mon enfant. C'est bien nous qui avons fait ensemble cet enfant. Mais le lien juridique, ça peut être aussi l'adoption. Allez, peu importe, il y a un lien juridique qui est entre un enfant et des parents, les parents vont avoir une autorité. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des obligations, et pour exercer ces obligations, ils ont un certain pouvoir. Jusqu'où peuvent-ils aller ? dans l'exercice d'une autorité du pouvoir. C'est le débat sur les châtiments corporels, c'est le débat sur la violence au sein de la famille. Est-ce qu'on peut élever son gamin sans le frapper et sans crier ? Oui. Sauf que la France n'a toujours pas ratifié la démarche européenne sur ce sujet.
Et donc ?
Ben donc on donne des leçons
là,
aux autres.
Il y a un sondage qui sortait, là, 7 Français sur 10 couples donnent des gifles, disait-il.
Oui. Oui, donne des gifles, mais je pense
mais
qu'il faut...
c'est pas pour dire que c'est mal de donner des gifles, forcément.
Je pense qu'on doit être plus optimiste.
On va poser la question au pédopsychiatre dans un instant.
Moi, j'étais avec un des parents qui n'était pas du violent. Et à l'époque, il y avait un martinet, il ne l'utilisait quasiment pas. Aujourd'hui, l'immensité des parents ne frappent pas leur enfant, ne passent pas leur temps à crier après. Et on peut éduquer un enfant sans le violenter. Alors maintenant, la question qui est posée, c'est quelles sont les obligations, commençons par ça.
Absolument.
Quelles sont les obligations des parents ? Ben, ils doivent veiller à la sécurité de leur enfant, le protéger physiquement. Ils doivent effectivement l'éduquer dans tous les sens du terme. Ils doivent le surveiller, le protéger, l'accompagner sur le plan scolaire, sur le plan de sa formation, etc. Toute une série d'obligations qui leur sont imposées. Et ce qui est important, pour en terminer sur ce que vous disiez, c'est que l'autoparentale, elle est finalisée. C'est-à-dire que la société reconnaît le pouvoir des parents sur leur enfant pour faire quelque chose, pour le protéger, pour le soigner, pour l'éduquer. Et tout est dans ce mot « pour ». Si effectivement les parents défaillent, n'exercent pas l'autorité parentale ou l'exercent mal, la justice peut être amenée à intervenir. Et avant l'intervention judiciaire, il y a peut-être l'intervention sociale, l'intervention médicale qui peut résoudre l'ensemble de problèmes.
Et c'est effectivement avec cette évolution-là et dans cet interstice-là entre la pratique sociale et l'évolution du droit que le rôle du pédopsychiatre est particulièrement important aujourd'hui avec, je redonne le chiffre, 1 600 000 enfants qui vivent dans des familles recomposées. Stéphane Perger.
Oui, c'est moins la recomposition qui pose problème, encore que, bien sûr, il y a des questions qui sont soulevées, que la décomposition et la souffrance que cette décomposition peut générer auprès des enfants, surtout évidemment quand il y a des conflits. Moi, je suis directement touché quand je vois des enfants qui sont comme ça, confrontés aux conflits des parents, parfois d'ailleurs sans aucune pudeur. Hein, les parents se disputent devant l'enfant. C'est une terrible souffrance. Tout le mal qu'on peut dire sur un parent, ça va de soi de le dire, mais c'est important de le répéter. On peut se séparer. Pour autant, on évite d'attaquer le père ou la mère de l'enfant. Et puis, il y a un autre sujet hein, qui concerne à la fois les juges et les pédopsies, c'est la question des modes de garde. C'est-à-dire que les conflits autour des modes de garde peuvent aller très très loin, avec parfois des fausses accusations, c'est terrible. Et en tout cas, en ce domaine-là, la parité n'existe pas. C'est, globalement, les enfants souffrent de passer moins de temps avec leur père. Alors, parce que le père n'est pas là, parce que le père ne demande pas la garde et qu'on ne la lui impose pas, parce que les décisions de justice, peut-être, les juges ont été plus élevés par leur mère, donc vont davantage confier...
Ou parce que la mère est en conflit avec le père et ne veut pas que le père exerce totalement ses droits en mettant l'enfant au milieu, qui est une situation qui arrive également, Jean-Pierre Rosenzweig.
Je voudrais être en contradiction et légèrement déphasage par rapport à ce que vous venez de dire, parce que les mots sont importants. Garde, ça n'existe plus. On garde un objet, on ne garde pas un enfant. On l'accueille et on exerce des responsabilités. Oui, au fond, c'est important.
C'est carrément très important. Merci
de
nous...
Je ne vais pas être donneur de leçons. On a fait 250 questions réponses. Non, mais sur le fond, et pour nos auditeurs, lorsqu'on est parent, on a des responsabilités. On va voir qu'on a des droits, qu'on a des devoirs. Qu'on soit marié ou pas marié. Qu'on vive ensemble ou pas ensemble. D'accord ? Donc la question n'est pas de savoir est-ce que je vis avec l'enfant ou est-ce que je vis sans l'enfant ? Ou est-ce que l'enfant vit avec l'autre ? Qu'il vive avec moi ou qu'il ne vive pas avec moi, j'ai des responsabilités à son égard. Le père, qui est divorcé ou séparé de la mère, a des droits et des devoirs à l'égard de son enfant. D'accord ? Donc la question est de savoir, est-ce qu'effectivement l'autre parent, celui qui a résidence au quotidien, facilite la relation entre l'enfant et l'autre parent ? Effectivement, trop souvent dans le passé, je pars avec l'armoire anglaise, je pars avec le chien, et je pars avec l'enfant, terminado. Non. L'enfant a le droit, et c'est le sens du bouquin.
Et après, c'est très compliqué, et on va marquer une courte pause, justement, de tracer les frontières, parce que, allez, on va dire, c'est témoignage contre témoignage aussi, et on a tendance, au-delà des textes, à oublier qu'il y a derrière des êtres de chair, de sang, et qu'ils peuvent souffrir, et c'est compliqué.
Fait.
Donc
mais
on va voir comment la justice, Jean-Pierre Rosenzweig...
En un mot, simplement, sur l'orientation générale, parlons pas des adultes, parlons des enfants. Les enfants ont le droit de voir leurs parents exercer leurs responsabilités dans et hors le mariage, dans et hors la séparation. C'est le sens du livre.
Absolument. 250 questions et réponses pratiques, c'est publié chez l'Archipel. On revient dans un instant.
Europe 1.
Droits et devoirs des parents, comment évolue ce dur métier? On en parle avec François Claus et ses invités. Jean-Pierre Rosenzweig, qui est magistrat honoraire, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny et co-auteur de ce livre qui sert de base à l'émission « Parents, vos droits, vos obligations » et qui paraîtra mercredi aux éditions de l'Archipel. Avec nous également en studio Stéphane Clerget, qui est pédopsychiatre, chercheur et praticien hospitalier. Il a mis en place l'une des premières consultations d'aide à la parentalité et on peut citer son dernier livre « Soigner son enfant hyperactif sans médicaments ». C'est aux éditions Fayard. François Claus.
Droits et devoirs, quelle est la place centrale et celle de l'enfant, droits et devoirs des parents, jusqu'à quel moment écoute-t-on l'enfant dans ses besoins ou désirs et à quel moment il a une forme de libre arbitre dans ses décisions aussi? C'est une question fondamentale, Jean-Pierre Rosenzweig.
Oui, la loi a posé en 2002 le principe, les parents doivent parler de toutes les choses importantes avec leur enfant et recueillir son avis. Le mot avis est important.
Engagement religieux, engagement politique, utilisation du numérique, argent de poche, même tout, question
oui,
tout aussi
façon,
pratique.
Jusque-là, c'est sortir, regarder la télé, regarder telle émission, regarder tel film, fréquenter telle personne. Après, va se poser le problème de éventuellement de l'engagement politique. Il faut commencer par la base. Donc, pour répondre sérieusement à votre question...
Je dis ça parce que toutes ces questions oui, très monsieur, pratiques sont traitées dans le livre. Et on ne peut pas répondre à toutes, évidemment.
Non, alors, pour répondre à votre question, très simplement, effectivement, en toutes circonstances, la vie de l'intéressé de l'enfant doit être recueilli par les parents sur les décisions importantes. Maintenant, il leur appartient à eux de décider. Ce n'est pas l'enfant qui décide de sortir le soir après 8 heures pour aller fréquenter ses copains et revenir. Je rappelle, c'est un détail, on ne l'a pas dit pour nos auditeurs, mais l'enfant, ça va de 0 à 18 ans. Mmh. Et on ne peut pas mettre sur le même pied le gamin de 7-8 ans, le gamin de 12-14 et puis le presque adulte.
Donc pour chacun... Et c'est là où il y a une forme de non-droit, parce qu'à partir de l'âge, par exemple, de 15 ans ou 16 ans, on considère qu'un enfant, s'il ne veut pas finalement subir ou accepter une forme de résidence alternée qu'on lui impose, l'enfant a raison de décider, je ne vais plus chez mon père ou je veux rester là.
Je ne vais pas dire qu'il a raison, ça n'a pas de sens au sens juridique du terme, mais il a le droit d'exprimer un point de vue, il a le droit de ne pas être d'accord avec la décision qui a été prise par l'un, par l'autre ou ensemble, voire par le juge, il a le droit d'exprimer son point de vue devant le juge, il a le droit d'être assisté d'un avocat devant le juge, et il peut faire de la résistance par les pieds. C'est-à-dire qu'il peut, effectivement, vous imaginez qu'on aille chercher un gamin qui ne veut pas aller chez son père ou chez sa mère avec une compagnie de CRS, donc ce n'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il faut dialoguer, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement. Et là, on retombe sur la question du rapport des deux parents entre eux et du rapport des parents avec leur enfant. Mais si on va au cœur de votre question, oui, l'enfant a le droit d'exprimer un point de vue, oui, il a le droit d'avoir un point de vue qui n'est pas celui de ses parents. Sur les décisions essentielles, ce sont les parents qui décident. Et sur un certain nombre de points très précis, la loi veut que l'enfant puisse décider. Par exemple, pas d'adoption. Il n'y a pas d'adoption sans l'accord de l'enfant. Par exemple, à partir de 13 ans. Avant, on lui demande son avis. À partir de 13 ans, il faut son accord. Deuxièmement, je vais à l'autre bout de la chaîne et je sais que je vais choquer un peu à cette heure-ci, mais enfin, sur un problème d'IVG ou de contraception, l'enfant peut accéder. L'enfant, la personne de moins de 18 ans, le jeune qui a 15, 16, 17 ans, peut accéder à la contraception et peut, s'il le souhaite, soit interrompre sa grossesse. Si c'est une jeune fille qui est enceinte, soit ne pas interrompre sa grossesse. On dit trop souvent, une jeune fille, et ça arrive dans 6000 cas par an, en France, une jeune fille qui a moins de 18 ans et qui souhaite aller jusqu'au bout de sa grossesse et devenir mère, quoique mineure, peut effectivement se voir conseillée par ses parents de ne pas aller jusqu'au bout, mais si elle décide d'aller jusqu'au bout, elle est en droit d'aller jusqu'au bout.
Et je me tourne vers le pédopsychiatre, ce sont des situations de plus en plus fréquente aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de la société et de la place de l'enfant dans cette société, Stéphane Clerget.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, on peut dire que les parents écoutent davantage leur enfant, tiennent compte de leur opinion, de leurs besoins, de leur avis. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils sont tenus de le suivre. Et trop de parents aujourd'hui ont l'impression que le besoin de l'enfant, enfin en tout cas non pas le besoin, mais le désir de l'enfant fait force de loi. Et il arrive aussi que les parents soient véritablement tyrannisés par leur enfant. Il faut aussi que les parents s'autorisent à dire non et à mettre des limites si besoin à l'égard de leur enfant. Pour ce qui, tout à l'heure, vous parliez des situations de séparation. Il y a effectivement la volonté de l'enfant. Rappelons quand même que s'il est mineur, il est très influençable et qu'il y a malheureusement beaucoup de situations de manipulation de la part d'un parent ou de l'autre, voire véritablement d'aliénation.
Et qui sont souvent inextricables, Jean-Pierre Rosenzweig.
Pour prolonger nos échanges et ce que vient dire M. Clerget, deux points très précis sur les droits des enfants. Vous savez qu'une loi a été votée qui permet désormais à deux parents qui en sont d'accord de pouvoir passer par notaire pour divorcer. Mais ils se doivent d'informer leur enfant des décisions qu'ils vont prendre le concernant. Et celui-ci, s'il n'est pas d'accord, est en droit de demander à ce que l'affaire quitte le notaire pour aller devant le juge d'affaires familiales. Et deuxième illustration très concrète à l'autre bout de la chaîne, le secret médical. Un enfant qui a 17 ans, un jeune qui a 17 ans, soit parce que la jeune fille est enceinte, soit parce que le garçon a le sida, allez, prenons ces exemples-là, vont voir un médecin. Ils sont en droit de demander au médecin de ne pas dire aux parents qu'ils sont venus le voir, et deuxièmement, de ne pas permettre aux parents d'accéder au dossier médical. En d'autres termes, loi Kouchner de 2002, l'enfant est une personne, comme le disait Françoise Dolteau, et comme toute personne, elle se doit de se voir reconnaître le droit à la confidentialité des informations par le médecin.
On voit que ces questions, hein, Julie, sont extrêmement délicates, ténues entre le droit et effectivement une forme d'équilibre à préserver dans le sens d'une protection et d'un accompagnement des enfants et des parents dans notre société. On continue dans un instant à faire le tour de la question. On verra qu'il y a aussi d'autres structures qui se mettent en place pour venir aider et le psy et le juge, les médiations familiales, les thérapies familiales également. On fait le tour de la question ensemble jusqu'à 11h.
Projecteur sur le métier de parent jusqu'à 11h avec François Claus et ses invités.
Ah oui, on le voit, un métier de plus en plus difficile à exercer, et c'est pour ça que Jean-Pierre Rosenzweig et Pierre Verdier publient aux éditions de l'Archipel 250 questions et réponses aux droits et obligations des parents. Et c'est pour ça que nous consultons, si je puis dire, avec nos auditeurs Stéphane Clerget, pédopsychiatre, qui nous accompagne dans cette réflexion jusqu'à 11h. Le cas des adolescents, des enfants, j'allais dire adolescents difficiles, mais c'est presque un pléonasme. C'est l'âge où on se constitue, on se crée. La justice a des réponses aussi dans ce domaine-là, Jean-Pierre Rosenzweig.
Oui, mais enfin, la justice, elle doit être résiduelle, elle ne doit pas intervenir pour les 700 000, 780 000, 800 000 adolescents. Elle a une place à jouer, mais une place résiduelle. Voilà. Donc elle peut, effectivement, c'est ce qu'on appelle la procédure d'assistance éducative du Code civil, elle peut intervenir pour étayer, relayer, soutenir des parents qui seraient en difficulté entre eux et dans leur relation avec leur enfant, et en toute hypothèse, l'enfant pâtissant de ce conflit ou cette absence ou de ces carences parentales. Bon, voilà. Donc ça n'arrive pas tous les jours. Les juges pour enfants ont un rôle très important à jouer. Je vous rappelle que c'est récent, c'est 1958.
Absolument.
Jusqu'à 1958, il fallait attendre quand, dans une famille, il y avait des problèmes. Monsieur était un petit peu alcoolo, madame était un petit peu dépressive. Un des gamins faisait de l'anorexie et l'autre, il faisait de la délinquance. On pouvait s'occuper de celui qui était délinquant, on ne pouvait pas s'occuper de celui qui était anorexique.
Et ça, vous nous rappelez, c'est à échelle, elle n'est même pas d'une génération.
C'est 1958.
Ouais,
hein.
Voilà.
C'est Chien perdu sans collier, 1955. De la loi. Enfin bref, en tout cas, il fallait attendre le délit prétexte avec Charles de Gaulle, 1958. C'est pas de Gaulle, bien sûr, qui revenant au pouvoir, a décidé de faire cette ordonnance, mais ça correspond à un moment de fracture sociale. On a pris en compte que des enfants en danger pouvaient être délinquants et qu'en intervenant pour les enfants en danger, on pourrait éviter qu'ils ne soient délinquants. Voilà, effectivement, la justice peut avoir un rôle à jouer. Au passage, pour laisser. Il n'y a pas que la justice qui a un rôle à jouer, le travailleur social. Et pour dire le problème politique par-delà le bouquin juridique que nous avons fait, et on le voit dans l'actualité. On peut être très très inquiet à l'heure actuelle du fait qu'un certain nombre de parents ne savent pas quels sont leurs droits et leurs devoirs et laissent éventuellement traîner leurs gosses en croyant bien faire. Mais deuxièmement, tous les services de proximité d'aide aux parents en difficulté sont actuellement en grande difficulté. Service social scolaire, service de santé scolaire, c'est pas d'aujourd'hui. Rapport du Conseil économique et social des années 75. Mais c'est aussi la psychiatrie infantile, c'est la pédiatrie. C'est aussi tout simplement la protection maternelle et infantile. C'est les clubs et équipes de prévention qui sont en faillite. Donc il faut pas seulement que la loi vienne dire voilà vos obligations, mais il faut que la société.
Il faut derrière que ça suive et qu'on y donne les moyens. J'imagine, Stéphane Clerget, que vous souscrivez à cette analyse, vous qui êtes en première ligne sur cette question.
Oui, non, la question des moyens est fondamentale. Vous parliez tout à l'heure d'assistance éducative. C'est très difficile d'obtenir une assistance éducative à temps suffisant. On a des éducateurs qui viennent à domicile, ce qu'on appelle l'aide éducative en milieu ouvert. Mais c'est quoi, une à deux heures par semaine? C'est largement insuffisant.
Et que les mesures soient exercées. passer, parce que le vrai problème, ce qu'ont montré les magistrats de Bobigny et 250 autres, oui. c'est que les mesures sont prises, mais elles ne sont pas mises en œuvre avant 6 mois, 1 an, 18
Exactement, le
mois
retard,
parfois.
Vous avez raison, on en souffre. Mais bien sûr que c'est une question de moyens, on va dire, ok, il n'y a plus d'argent. Mais ce dont on n'a pas conscience, c'est des économies que la société va faire si on s'occupe bien des enfants.
C'est la délinquance... prévention avec la santé et la prévention.
Mais oui, mais la délinquance coûte extrêmement cher et c'est vraiment à la racine qu'il faut intervenir. Et donc c'est vraiment des moyens qui ont du sens et qui sont utiles pour la société. Donc il faut vraiment en faire une priorité.
Est-ce que je peux vous donner un chiffre?
Oui,
pardon de vous
allez-y, Jean-Pierre. Non,
pour prolonger ce qui est dit. Quand il faudrait être offensif. Il ne s'agit pas seulement de répondre aux problèmes, il s'agit de prévenir la cristallisation des problèmes en matière de délinquance, mais en matière d'enfance en danger. Mais lorsqu'il faudrait être offensif, on est en train de se retirer parce que l'État et les départements jouent au chien et à la chienne, enfin bref, ils ne s'entendent pas. Regardez, un point très très concret. D'ores et déjà, 17 départements de France ont renoncé à ce qu'on appelle la prévention spécialisée, c'est-à-dire aux éducateurs de rue qui vont au contact des enfants pour, quand un gamin traîne, voir pourquoi il traîne, quels sont ses problèmes, pourquoi il est en décrochage scolaire, est-ce qu'il y a des problèmes familiaux, est-ce qu'il y a d'autres types de problèmes, etc. Dans 17 départements, il n'y a plus ces services spécialisés qui allaient au contact. Ce qui veut dire que dans 5 ou 10 ans, nous allons avoir de sacrés problèmes. Alors on pourra faire les plus belles lois du monde, et j'incite le législateur aujourd'hui à adapter la loi aux évolutions familiales. Mais dans le même temps, il faut des services de proximité en soutien aux parents.
Et les développer.
Prend le chemin absolument inverse. Ce qui se passe sur la protection maternelle et infantile dans tous les départements, enfin disons dans beaucoup de départements, est aussi très très préoccupant.
Et on verra si des réponses sont apportées, puisqu'on est dans une phase de remise à plat de toute notre société en
c'est
ce moment.
Ça, on aura peut-être c'est pour ça que je me permettais de le dire, de suggérer une idée.
On avait compris, le malin Jean-Pierre Rosenzweig est là dans le contexte politique également, mais toutes les questions, y compris les plus intimes, ont un rapport évidemment avec la société et avec le monde qui nous entoure.
Nous parlons des droits et devoirs des parents. Mais quand on dit devoir, ça veut dire sanction. Si on ne respecte pas ses obligations, quelles sont les sanctions que risquent les parents?
Il peut y avoir des sanctions, oui, il y en a plusieurs. Il y a des sanctions pénales. Ne pas exercer l'autorité parentale, ça peut vous valoir 2 ans d'incarcération. L'exercer mal avec un certain nombre de violences, pas la gifle et la fessée, qui ne sont pas, même si demain elles sont condamnées, elles ne sont pas pénalement condamnables, mais les violences à enfants peuvent être singulièrement punies. Ça, c'est des sanctions, entre guillemets, pénales. Mais il peut aussi, alors bien sûr, je laisse de côté les violences sexuelles, on ne va pas entrer dans ce sujet, mais il y a aussi des sanctions civiles. La sanction civile, ça peut être le retrait de l'autorité parentale. C'est-à-dire se faire retirer purement et simplement l'autorité parentale. Et puis, il y a une sanction intermédiaire qui est la responsabilité civile. C'est-à-dire le fait de devoir indemniser la victime du dommage qui a été causé par l'enfant. Vous savez que, vous ne savez pas, c'est la Cour de cassation qui le dit depuis 1984, un enfant très jeune, 4 ans, qui crève l'œil de son petit camarade, va engager sa responsabilité civile. C'est une des questions qu'on traite dans le livre. Et ipso facto, du simple fait que je suis parent de mon enfant, parent sur le plan juridique de mon enfant, même s'il vit à 10 000 km de moi. Hein. C'est les parents qui sont en métropole et les enfants qui sont restés dans les Outre-mer. Donc si en Outre-mer, mon enfant bouscule quelqu'un, cette personne a un préjudice matériel ou physique, je serai moi tenu d'indemniser parce que mon enfant a l'obligation d'indemniser. D'où l'importance d'avoir une assurance chef de famille. Et on retombe sur des questions très politiques. On a le droit et le devoir d'assurer sa voiture, on a le droit qui est sur la place publique, on a le droit et le devoir d'assurer son appartement, on n'a pas le droit et le devoir de s'assurer pour son enfant quand l'enfant, entre guillemets, est un risque sur le plan civil. Heureusement, les assurances appartements entraînent généralement assurance chef de famille.
On ne sait jamais parce qu'on n'a pas tout
vu,
évidemment.
C'est une des informations essentielles que nous voulions, Pierre Verdier et moi, faire passer dans le livre. Parents, ne soyez pas crispés. Bien entendu, ça ne doit pas vous conduire à l'irresponsabilité, mais si... du fait de votre enfant, votre responsabilité civile peut être engagée, vous êtes couvert par les assurances.
Sans même le savoir, ça dépend effectivement des contrats, mais posez
si votre enfant a commis une faute volontaire, vous êtes assuré pour vous, pas pour lui, pour vous.
Alors ça réagit du côté du standard, il y a une question là qui est très intéressante et c'est Étienne qui va nous la poser. Bonjour Étienne.
Oui, bonjour François, bonjour Julie, bonjour vos intervenants.
Vous nous appelez de Melun, Étienne, et vous avez une question toute simple à poser.
Tout simplement, quels sont les droits et devoirs des grands-parents par rapport aux enfants?
Jean-Pierre Rosenzweig va vous répondre et on verra la dimension dans les nouvelles familles avec Stéphane Clerget.
Les droits, et là je parle d'escalité de nouveaux grands-parents, les droits des grands-parents, c'est d'aimer leurs petits-enfants et de les élever, enfin de les élever, de les accompagner, escalité de grands-parents. Grand-parent n'est pas égal à parent. En d'autres termes, il ne faut pas se substituer aux parents. L'autorité parentale, c'est d'abord celle des parents. Alors ça, c'est un devoir de rester dans le rôle de grand-parent. Maintenant, effectivement, j'ai le droit, comme grand-parent, d'entretenir des relations avec mes petites filles, en l'espèce, mes petits-enfants, que les parents le veuillent ou ne le veuillent pas. D'habitude, ils le veulent. Vous venez manger samedi, vous venez
manger... Non, mais s'ils ne le veulent pas, là, la question est... Allons-y jusqu'au cas extrême.
Ben, jusqu'au cas extrême. Le droit est consacré... le principe du droit est consacré par le Code civil. Il faudra saisir le juge aux affaires familiales qui va cantonner le droit de relation des grands-parents avec les petits-enfants, tel jour, telle heure, sur telle modalité. Généralement, dans l'immensité des familles de France, vous venez samedi, vous êtes dimanche, est-ce que vous prenez le gosse pendant le week-end, est-ce que vous le prenez pendant les petites vacances? Il n'y a pas de problème.
On a vu.
Mais s'il y a un problème, c'est le JAF. Le juge le plus important en France, on ne le sait pas, hein, ouais. C'est pas le juge pour enfants, dans le champ de la famille. C'est le juge
aux affaires familiales.
Le grand juge de la famille.
C'est celui qui fait... Il est parfois un peu débordé, hein, aujourd'hui.
Oui, mais c'est un autre problème. Non, mais c'est un autre problème. C'est le problème que posait M. Clerget tout à l'heure, celui des moyens. Mais le grand juge de la famille, c'est le juge de la famille. C'est lui qui fait la filiation. C'est lui qui dit qui a l'autorité parentale. C'est lui qui s'occupe des problèmes de prénom, voire des problèmes de nom. Et c'est lui qui s'occupe effectivement des conflits qui peuvent exister entre parents sur qui exerce l'autorité parentale. Si ça déborde et l'enfant est en danger, c'est le juge pour enfants.
Vous avez votre réponse, Étienne ?
Oui, tout à fait. Je vous remercie.
Vous êtes grand-père vous-même, j'imagine, si vous posiez la question.
Deux fois, c'est un grand bonheur.
Et vous avez des droits et des obligations et vous les exercez ?
Tout à fait, mais bon, c'est seulement pour préciser les limites et surtout le fait que pas beaucoup de grands-parents savent qu'ils ont la possibilité de voir leurs petits-enfants, même si les enfants ne le veulent pas.
Je vais même plus loin. La loi est écrite de telle manière que c'est un droit des petits-enfants de voir les grands-parents. Ce n'est pas un droit des grands-parents de voir les petits-enfants. La loi a été écrite au regard des enfants. Les enfants ont le droit à leur père, ils ont le droit à leur mère, ils ont le droit à leurs frères et leurs sœurs. C'est la question, une des questions qu'on pose, vous vous souvenez, du Parlement des enfants. Beaucoup de gosses avaient fait remonter cette idée qu'ils ne supportaient pas d'être séparés de leurs frères ou de leurs sœurs, que parfois on appelle les demi-frères ou les demi-sœurs. Donc il y a un droit fondamental à la fratrie de vivre ensemble, entre guillemets, d'avoir des relations, et il y a un droit des enfants d'entretenir des relations avec leurs grands-parents ou arrière-grands-parents, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a parfois 4 ou 5 générations dans les familles modernes de France.
C'est ce qui arrive aujourd'hui, et cet équilibre global, il est extrêmement important pour l'équilibre de l'enfant, Stéphane Clerget.
Oui, surtout si les parents sont trop mal pour bien occuper leur fonction de parents, notamment dans les situations de divorce, si bien que les grands-parents puissent garder de la hauteur et avoir un discours un peu plus neutre. Par ailleurs, plus l'enfant a de modèles familiaux, plus il a de chances de pouvoir bien se construire. C'est-à-dire qu'il va prendre ici ou là des traits de personnalité des parents, mais aussi des grands-parents.
On peut même dire que dans une famille recomposée idéale, ça peut être une chance pour l'enfant de prendre du beau-père, de la belle-mère, oui, des choses en plus de celles de ses parents et celles des grands-parents.
À condition même qu'il soit d'accord sur les valeurs fondamentales. Moi, j'ai connu une gamine qui était première de sa classe avec son père qui lui disait « la propriété, c'est le vol ». Donc pendant le week-end, il volait, alors que sa tante lui disait « tu n'as pas le droit de voler ». La gamine devant moi, dans mon bureau, me disait « monsieur le juge, qui a raison entre l'un et l'autre ?»
Et vous avez répondu ?
Que c'était la tante qui avait raison. J'ajoute que le père était toxicomane et que la mère toxicomane était décédée, on est dans ce contexte-là. Et la gamine était perdue dans ce choc de valeurs. Je caricature, c'est un exemple.
Oui, c'est le cas extrême.
C'est un exemple que j'ai connu, qui est caricatural, bien évidemment. C'était pour rejoindre ce que disait M. Clerget. Ça peut être une richesse, cette pluralité, mais à condition que le gamin ne soit pas perdu dans les univers auxquels il est confronté.
Stéphane Clerget, je vous ai interrompu.
Oui, et les grands-parents ont aussi un rôle particulier qui est justement de transmettre l'histoire familiale. Ça va de soi, mais ça va mieux en le disant. C'est important qu'ils le fassent parce que ça aide aussi l'enfant à avoir du recul. C'est-à-dire déjà d'entendre dire que ses parents ont été enfants, ont pu rencontrer des difficultés, ça l'éclaire et c'est très apaisant pour l'enfant.
Même s'il ne s'en rend pas compte tout de suite, mais lorsqu'il repense à son histoire, et si on ajoute que souvent les grands-parents habitaient à la campagne, il aura appris que c'était qu'une salade qui sort de la terre,
tout le savoir,
et qu'une fraise fraîche, et que des œufs ramassés au poulailler, et que ce n'est pas forcément dans des réfrigérateurs.
Là, ça sent le vécu de votre part. Hein.
Oui, il y a un peu de vécu. Allez, je fais coucou à mes grands-parents dans la Sarthe avant de faire une courte pause. On parlera quand même des grands-parents sur une question d'actualité, Jean-Pierre Rosenzweig, très grave, celle des enfants de djihadistes français nés là-bas. On a vu les grands-parents entrer justement dans le champ de l'éducation des enfants. Allez, courte pause. On n'aura pas le temps de faire le tour de toutes les questions, mais vous avez vu, c'est passionnant.
Le dur métier de parents, on a encore quelques minutes pour en parler.
Le dur mais très beau métier quand même, magnifique métier. On est là, non pas pour appuyer là où ça fait mal, mais pour essayer de répondre à un certain nombre de contradictions et de difficultés de notre temps, Jean-Pierre Rosenzweig.
Vous ne permettrez pas d'être d'accord avec le mot métier, c'est une fonction.
Oui, une fonction,
comme,
bien sûr.
Lorsqu'on est juge, on assume une fonction. Ce n'est pas seulement un métier pour gagner sa vie.
On évoquait le rôle des grands-parents et de l'ensemble de l'équilibre, de la mosaïque familiale pour garantir un équilibre aux enfants. La question s'est posée douloureusement avec ces enfants nés là-bas, au pays du djihad. Qu'est-ce que vous dites sur la situation de ces enfants, Jean-Pierre Rosenzweig?
Après y avoir beaucoup réfléchi, comme tout le monde, j'allais dire... à être préoccupé, hein, mais au sens inquiétude. Bon. Et parfois, certains en sont tétanisés. Il faut revenir aux fondamentaux, hein, il faut rationaliser, il faut réfléchir. Alors d'abord, ces enfants sont nés de un ou deux parents français. Ils sont français, ce sont nos enfants. Pour en penser ce qu'on en veut, ce sont nos enfants. Et la France doit protection à tous ses ressortissants, qu'ils soient en France ou qu'ils soient à l'étranger. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, c'est plutôt des enfants qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, enfin bref, des petits-enfants. Parfois, il peut y avoir des adolescents. Alors, soyons clairs, des adolescents plus participer à des scènes de guerre ou à des actes de guerre. Parfois même, on l'a vu sur tous les films, les enfants du djihad, des gamins de 7 ou 8 ans ont pu être formés à se sacrifier, à faire exploser la ceinture qu'ils avaient autour d'eux. Ceci dit, il faut avoir confiance dans notre capacité de déprogrammer, entre guillemets. Si on a été capable de programmer aussi rapidement ces gamins, on doit être capable de déprogrammer. Il faut avoir confiance dans notre système. Et maintenant, on rejoint votre question. Qui peut le faire? L'aide sociale à l'enfance, à l'arrivée en France, doit effectivement vérifier...
C'est
où
pour ça que je voulais poser ces questions. Elle est extrême dans cette situation, mais elle renvoie à notre temps.
Dans l'ordre. Et ce qui se passe sociale. Concrètement, le juge pour enfants intervient, le procureur intervient, le juge pour enfants intervient juste ensuite, qui effectivement mandate l'aide sociale à l'enfance avec des investigations médico-sociales pour essayer de comprendre là où en est l'enfant, des investigations plutôt sociales et familiales. Et c'est là où les grands-parents peuvent effectivement jouer un rôle. Ils peuvent lever la main en disant « nous faisons partie de la famille, nous pouvons prendre des responsabilités, nous voulons prendre des responsabilités ». Et il est parfaitement possible, et je pense que ça a dû arriver, que le juge des enfants confie les enfants aux grands-parents.
Stéphane Kerger.
Moi, dans ma pratique, j'étais davantage confronté à du travail de prévention. C'est-à-dire des parents, ou un parent plus souvent d'ailleurs, venait parce qu'il avait le sentiment, et souvent à raison, que leur adolescent avait une évolution un peu inquiétante avec des investissements, par exemple, religieux ou en tout cas radicaux, un isolement, une rupture avec les activités habituelles et puis des théories un peu complotistes. Hein. Et donc, il faut que les parents n'hésitent pas, effectivement, quand ils sont un peu alertés, à consulter au dispensaire ou en consultation privée pour justement observer et intervenir au plus tôt pour éviter une évolution radicale.
Pour rebondir sur cette question, mais une question que vous posiez en liminaire de nos échanges sur l'enfant et la religion. Un enfant a le droit de choisir sa religion. C'est la Convention internationale sur l'enfant, l'article 14, mais c'est aussi le droit français. Alors, les parents sont en droit d'élever leur enfant dans leurs convictions, dans leurs valeurs, et notamment dans leurs convictions et leurs valeurs religieuses. Petit 2, l'enfant est en droit de refuser de partager ses valeurs. Par exemple, mon père aurait souhaité que je fasse ma bar mitzvah. Je lui dis que papa, pour les cadeaux, je veux bien, pour le reste, j'y crois pas. Donc, il a parfaitement admis que je sois agnostique. En d'autres termes, les parents sont en droit d'élever les enfants dans leurs convictions et les enfants sont en droit de ne pas partager les convictions de leurs parents. Alors après, une autre question qui est posée, c'est celle de l'expression. C'est une des questions qu'on traite, l'expression des convictions religieuses, le port du voile ou d'autres pratiques, notamment dans l'établissement scolaire par les enfants, avec la loi de 2004 qui est venue effectivement dire on peut exprimer des convictions religieuses à condition que ça ne soit pas provocateur et ostentatoire et prosélyte. Donc, si tu restes dans ta religion, tu as le droit de participer d'un lieu commun.
Alors je vous propose qu'on termine l'émission comme on l'a commencé, Julie. Parents, vos droits, vos obligations, édition de l'Archipel, 250 questions et réponses. J'ouvre le livre totalement au hasard pour poser une des questions. Alors, ça ne va pas être simple en quelque temps. Qu'est-ce que l'intérêt de l'enfant, Jean-Pierre Rosenzweig, page 92.
Personne ne le sait. Je voudrais d'une manière polémique, puisqu'on est très rapide. L'intérêt de l'enfant, c'est l'argument qui est avancé par tous les adultes, y compris les magistrats, pour porter atteinte aux droits des enfants. Dans ton intérêt, tu ne verras pas ton père, tu ne verras pas ta mère, alors que j'ai le droit de voir mon père ou de voir ma mère. Alors l'intérêt de l'enfant, deuxièmement, ne peut pas être défini a priori. Certains sont en train de chercher le concept idéal d'intérêt de l'enfant.
Et non. Peut-être heureusement, d'ailleurs.
Et peut-être heureusement. Ce n'est qu'a posteriori qu'on saura ce qu'on a mis derrière le mot intérêt de l'enfant dans telle ou telle pratique. c'est le mot dont il faut se méfier. Moi, je préfère le mot besoin. Quels sont les besoins de tel ou tel enfant? Et puis surtout, je préfère le mot droit. Quel est le droit de l'enfant? J'ai le droit de ne pas croire, même si tu penses que mon intérêt, ce serait de croire.
Finalement, cette question, j'attendais une question extrêmement pratique et elle est quasi philosophique. Allez.
Mais il y en a, elle est très pratique après, ça veut dire reste à ta place.
Reste à ta place, absolument. Allez, le mot de la fin pour vous, Stéphane Clerget. On va rassurer les gens, on est là. C'est difficile d'être parent, mais qu'est-ce que c'est beau aussi.
Oui, qu'est-ce que c'est beau. Et quand même, dans la plupart des cas, les parents y parviennent. Surtout, il faut que les parents gardent confiance en eux, évidemment, mais confiance en leur enfant. C'est-à-dire qu'on ne juge pas l'éducation d'un enfant à 10 ans, 15 ans ou 18 ans. C'est j'allais dire, une fois qu'il est adulte et peut-être même parent, qu'on peut vraiment évaluer les résultats de son éducation.
Voilà le beau mot de la fin.
Le taux de natalité en France est le premier, sinon le deuxième, sinon le premier d'Europe.
Absolument.
Ce qui veut dire que globalement, les gens...
Mais il y a de l'espoir, mais bien sûr.
Il y a de l'espoir. Surtout en lisant le livre, on pourra s'en sortir.
Le livre, Parents, vos droits, vos obligations, 250 questions et réponses, édition de l'Archipel. Et puis, lisez également Stéphane Clerget, Soigner son enfant hyperactif sans médicaments. C'est aux éditions Fayard.
Voilà. Merci, François Clos.
Allez, vous l'avez dit, on ne le fait peut-être pas, mais on... Allez, on a essayé de l'esquisser. Demain, on retrouve Wendy.